Sinon, là-bas, c'est le salon de la paroisse. Et alors, je répète, la première icône à droite du centre, à droite de la porte du centre, c'est Jésus, roi pantocrateur. Deuxième, c'est Jean-Baptiste décapité. Troisième, c'est la Sainte Vierge Mère de Dieu. Quatrième, ça change de visage, de figure, mais pas de principe. C'est le patron, bien la patronne de l'Église. Et là, c'est l'Annonciation. Une fois on sera à Bethléem, sera l'Nativité. OK? Ça, c'est concernant l'iconostase. La partie face à la porte ici, de l'autre côté, sera la partie ancienne de l'Église byzantine. Alors, cette partie ancienne fait partie de l'Église byzantine ancienne du 5e siècle, en sachant que l'Église actuelle elle est de 1677 et c'est l'Église orthodoxe de l'Annonciation, ou bien connue par l'Église de Saint-Gabriel, ou bien l'Église de la Fontaine de Marie. À savoir qu'au fond, vous allez trouver une partie, ou bien une petite partie de l'eau qui coule encore de cette source qu'on appelle la Fontaine de Marie. L'évangile apocryphe de Jacques, qui est du 2e, 3e siècle, qui n'était pas canonisé, nous raconte plus de détails sur la vie de la Vierge et nous dit que peut-être que l'Annonciation prenait place à deux étapes. Une première étape, quand la Vierge était à la recherche de l'eau. Si vous vous rappelez, quand on était à Qumran, on a dit que c'est les femmes qui cherchaient l'eau. Alors, Marie, à l'âge de 16 ans, 14 ans, si elle n'était pas fiancée, si elle n'était pas mariée, elle devait aider sa maman aussi. Alors, à cet âge-là, on trouvait les jeunes filles à la source. Et quand elle a entendu la voix de l'ange qui lui parlait, elle qui était déjà fiancée, et quand on est fiancé dans une cité comme le nôtre, on est enfermé, on ne peut pas parler à n'importe qui. Alors, à la parole de l'ange, elle avait peur, elle a couru jusqu'à la maison, et c'est à la maison qu'elle avait la deuxième étape. Alors, je rappelle que c'est à la base de l'évangile apocryphe de Jacques. On a le plus de détails sur la vie de Marie. Mais vous savez quoi? On n'a pas des épreuves que c'était vraiment à la synagogue. Aucune écriture, aucune archéologie. Nous ne avons le bâtiment. Et ce bâtiment remonte au temps des croisés. Et quand il y a le bâtiment du temps des croisés, c'est possible qu'il y avait une église byzantine. Et s'il y avait une église byzantine, c'est forcément qu'il y avait un événement de l'évangile. Ici, on dit la synagogue du temps de Jésus. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on va écouter dans la lecture de l'Évangile. Maintenant, cette synagogue était transformée dans une chapelle et c'est tenu par l'église grecque catholique Melkite. Je ne sais pas si vous avez un jour entendu parler du curé de Nazareth.
Oui.
Le père Choufrani. Il était le curé de cette paroisse ici, le grec catholique Melkite. Salut ma soeur. Alors, c'est qui cette communauté grecque catholique melkite? Les grecs catholiques melkites étaient la communauté qui se séparait de Rome lors du grand schisme de 1054. Elle a rejoint l'église de Somalie orientale. Je n'allais pas dire orthodoxe, mais de Somalie orientale. Mais avec le temps, cette communauté a décidé de se rendre vers Rome de nouveau, de faire les liens avec Rome. Et les liens avec Rome. Rome l'a bien accepté. Et en laissant une certaine autonomie à cette communauté qui ont gardé la forme des églises byzantines ou bien orthodoxes et de bien garder la liturgie byzantine.
Premier mot, car du temps de la Bible ou du Nouveau Testament, on n'éditait pas un livre avec un titre, une maison de presse, ni des chapitres. Il n'y avait ni chapitre ni verset quand on écrivait, mais l'écrivain, sont des codes naturels, il n'avait pas beaucoup à calculer, savait que tout le sens enfin, et toute l'allure du récit, tout le mouvement du texte se passait par les mots qu'il allait employer ou les idées qui seraient des idées programmes qu'il n'aurait plus qu'à développer par la suite. C'est ainsi que nous allons écouter ce qui s'est passé avec la première parole de Jésus, le dialogue admiratif dans un premier temps, et puis dubitatif et hostile à la fin, entre l'assistance et lui-même Jésus. En même temps, faites attention au décor aussi, on est dans une synagogue, d'accord, mais je veux dire dans le récit, Vous avez là, c'est la seule attestation que nous ayons dans le Nouveau Testament, du déroulement d'une célébration à la synagogue. De telle sorte que certains ont dit, Luc, c'est un prénom grec, il n'a pas été apôtre, ça on le sait tous. Mais on disait, mais c'est un grec. Bon, très bien, c'est un grec. Non, moi je crois que c'est un brillant représentant du judaïsme hellénistique, c'est-à-dire du judaïsme qui a été évangélisé à la deuxième génération. Et il va écrire, lui, pour un certain Théophile, qui est un chrétien de la troisième génération. Soit vous disiez, mais moi je n'ai rien transmis à mes petits-enfants. Eh bien, Luc fait exactement la même chose. Certes, tu as reçu une première fois la foi, d'accord, mais maintenant tu te poses de nouvelles questions. Alors, eh bien, Luc dit, mais je vais reprendre tout le récit de Jésus, reprendre depuis le début, il nous racontera l'évangile de l'enfance de Jésus, depuis le début, les événements concernant Jésus et dans l'ordre. Alors on se dit, tiens, celui qui a écrit avant lui, il n'a plus qu'à mettre son récit de côté, parce que ça veut dire que les autres qui ont essayé d'écrire, ils ont écrit dans le désordre. Bon, bref. Donc il y a une petite pointe amusante. Donc les premières paroles de Jésus, Jésus entre dans la synagogue. Il fait la lecture ce jour-là, et comme par hasard, il tombe sur ce passage de l'Écriture, qu'il conclura par « Aujourd'hui s'accomplit cette Écriture ». Si on regarde le contenu de l'Écriture, il y a deux passages de Isaïe qui sont accolés. Et ce n'est pas par hasard, car si on regarde la composition de ce nouvel ensemble, eh bien, il y a une réalité qui apparaît, à laquelle nous ne serions pas sensibles, parce qu'on est plus sensible à renvoyer en liberté les opprimés, par exemple, rendre la liberté aux esclaves, enfin bon, rendre la liberté, on serait plutôt sensible à cela. Bien non, la pointe de cette citation, c'est rendre la vue aux aveugles. On se dit, en quoi ça peut être important cela? Eh bien, ça vous sera un très bon code pour relire tout Luc et tous les actes des apôtres sous ce seul prisme de la vue, du voir. Hier, le récit de Bartimée que je vous ai lu, c'était de lui, et il y avait « recouvre la vue, voir à nouveau, voir de nouvelles manières ». De même, les disciples d'Emmaüs, c'est « leurs yeux s'ouvrir ». Et puis, quel est le plus grand voyant ou malvoyant devenu clairvoyant de toute l'histoire qu'il nous raconte, Évangile et Actes des Apôtres? Eh bien, c'est Paul. Paul qui pensait être clairvoyant, qui se retrouve ne voyant rien du tout, ne voyant plus clair, il a besoin d'être conduit. Lui qui y allait, oh, et puis il a besoin d'être conduit, il ne voyait plus rien, il ne voyait pas clair. Donc pour Saint-Luc, Jésus est venu pour donner la vue aux aveugles, c'est-à-dire rendre clairvoyant. C'est un bon message pour Théophile, à qui il écrit, en disant « il te faut à nouveau faire une synthèse, analyser, voir clairement un peu où c'est que tu en es, puis poser les bonnes questions et revoir à partir de la tradition ce qui te concerne, ce qui concerne l'avenir. » Deuxième commentaire, c'est le « aujourd'hui » qui conclut cette citation. « Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture ». C'est la seule homélie que Jésus fait. On dit que c'est l'homélie la plus courte de toute l'histoire. Aujourd'hui, s'accomplit cette Écriture. Mais vous avez entendu, chacun des mots pèse, mais je reste sur le premier mot, aujourd'hui, parce qu'on l'a déjà vu deux fois hier avec Zachée. Et aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le temps favorable, c'est le moment du salut. Ce n'est pas le temps chronologique, mais c'est le temps favorable. L'aujourd'hui du salut. Plusieurs fois, ça reviendra. C'est le temps favorable. Et d'ailleurs, la dernière phrase de la citation d'Isaïe dit ceci, bon, prendre la vue aux aveugles et compagnie, puis proclamer une année de grâce du Seigneur. Alors, s'il fallait essayer de comprendre ce que c'est que cette année de grâce, vous savez que dans l'ancien temps, et c'est ainsi que l'Écriture va s'accomplir, selon lui, c'est que tous les 50 ans, il y avait un grand jubilé. Tous les 7 ans, il y avait un petit jubilé. Tous les 50e année, il y avait un grand jubilé où ben, chacun pouvait revenir chez lui, retrouver son petit lopin de terre. Voilà, il pouvait recommencer la vie. C'est une idée très intéressante d'ailleurs. Et vous savez que le pape Jean-Paul II, quand il a déclaré le grand jubilé de l'an 2000, dès 1994, disait que eh bien, il sera demandé peut-être aux pays qui ont donné de l'argent avec beaucoup d'intérêt aux pays pauvres, puissent réviser la dette. Alors c'est une idée utopique, évidemment. Voilà, qui est-ce qui aujourd'hui ferait cela, je ne sais pas. Mais l'utopie est très importante pour stimuler la recherche et voir de quelles solutions on pourrait adopter pour que ça se réalise. Jésus vient réaliser le grand jubilé, c'est-à-dire la remise de toutes les peines, la remise de toutes les dettes. On comprendra mieux le Notre Père de Saint-Luc, remets-nous nos dettes. Et il appelle en même temps, c'est une année de grâce. Ah, tiens, Marie avait été saluée comme étant la toute gracieuse, pleine de grâce, comblée de grâce. Mais là, c'est je suis venu proclamer une année de bienfaits. Et donc, c'est aujourd'hui qu'il déclare, c'est le début éternel, puisqu'il n'y a pas de chronologie, le début éternel de cette année de bienfaits qui commence avec cette ouverture que nous fait entendre Saint-Luc dans la bouche de Jésus à la synagogue de Nazareth. Troisième commentaire, ce sera le dernier. Pourquoi les gens s'émerveillaient tout d'un coup, une furax, ils voulaient le pousser depuis l'escarpe rocheuse pour le précipiter en bas. Mais oui, Jésus va s'échapper. Eh bien, c'est que dans le discours, d'abord, il prend partie. Médecin, guéris-toi toi-même, c'est-à-dire on a entendu dire que tu as fait des choses à Capernaum, mais tu n'as qu'à les faire ici, il y a suffisamment de malades ici, reste bien chez nous. Et Jésus s'échappe de leur enfermement en disant, mais relisez l'Écriture. Du temps de Élie, qu'a fait Élie? Il est allé à Sarepta, voir une veuve de Sarepta, c'est au-delà d'Israël, dans le nord. Et puis, du temps de l'Anan syrien, qui était-il? C'était un Syrien, vers l'Orient. Et donc déjà, dans le discours d'introduction que Jésus prononce en synagogue, il fait éclater le temps. Aujourd'hui, ce n'est plus la chronologie. Il fait éclater l'espace. Dieu n'est pas confiné dans une frontière, dans une patrie, dans un village d'origine comme Nazareth, mais il est venu pour tout le monde. Et donc toute l'histoire de Luc et des Actes des Apôtres sera cette ouverture infinie jusqu'à l'extrémité. Et pour lui, l'extrémité, ça sera la capitale de l'Empire romain, Rome. Et le récit de l'histoire s'arrêtera à Rome. Vous voyez donc, le christianisme, selon Luc, est un christianisme, une religion universelle. Et c'est ça qui ne plaît pas trop à ses concitoyens de Nazareth. Voilà, donc ainsi, en peu de lignes, vous avez toute la vision de Luc qu'il a recueillie de sa méditation, de sa réflexion sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth et des lieux qui sont celui-ci, c'est-à-dire comme dans toutes les villes, il y avait une petite synagogue, et donc il raconte qui est Jésus. Voilà. Et donc demain, on découvrira toute autre chose, parce que chaque évangéliste à son monde, et son monde dans les sens du terme. Le monde, voilà, sa façon de penser, de concevoir, mais son monde, c'est-à-dire les destinataires. On n'écrit pas comme ça en l'air, on écrit toujours pour un public. Et donc, par ce biais-là, Luc, il nous dit, en bon grec qu'il est, pour qui il écrit Théophile. Les autres ne le font jamais, parce que dans l'habitude sémitique, on ne dit pas j'écris pour, je sais pas qui, moi, pour Jérusalem, j'écris pour... ou pour tel ou tel, non. Donc on écrit, et c'est à travers l'écrit que l'on devine à qui il s'adresse. Quel est le monde du texte, quel est le monde auquel il s'adresse. Et donc demain, nous verrons le monde de Marc et le monde de Matthieu.
Qu'est-ce que c'est les références de Luc
4. C'est le tout début, la vie publique.
Qui a
le
témoin
de
Jésus quand il était dans
ici, à synagogue. Oui, oh ben c'est le début de la vie publique. Donc c'est pareil. Voilà, bon, une petite précision, pourquoi je vous parle de ces trois? Parce qu'ils ont beaucoup de parenté. Matthieu, Luc et Marc. Matthieu, Marc et Luc. Ils ont beaucoup de parenté. À l'origine, il y a un récit primitif qui a été nourri par les nombreuses prédications, catéchèses et peut-être les plans de quelques notes. Voilà. Ce matin, nous avons entendu une homélie bien écrite, mais quelquefois, on n'avait que trois mots. Voilà. Et donc, il y a des pensées bêtes quand les gens allaient, mais voilà, en pioche et compagnie, il n'y avait pas des évangiles tout écrits encore. Mais à chaque fois que les gens posaient des questions, mais Jésus, où est-ce qu'il a grandi? À Nazareth. Et comment c'est passé? Bon, ben, donc, voilà, on a quelques réponses là. Mais plus tard, c'était oui, mais Jésus, il était à Jérusalem, d'accord, il est mort, il est ressuscité, mais comment c'est arrivé? C'est-à-dire, voilà. Est-ce qu'il est Dieu juste à la résurrection? Non, il était au tout début, il a été baptisé. Alors, est-ce que c'est depuis le baptême, quand les cieux se sont ouverts, qu'il était Dieu? Et donc, on pose la question. Et lui dit, mais non. Et Marie, elle a reçu la promesse de l'ange. Alors, autrement dit, c'est au fur et à mesure que se pose la question qu'on va chercher à répondre. C'est pas la peine de chercher des réponses si personne ne se pose de questions. Quelles sont les questions d'abord? Ensuite, on essaiera de trouver des réponses. Non? Voilà, donc le monde de Luc aujourd'hui. Voilà, merci Hamzi, merci à vous. Et puis, voilà. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu
Laissez-moi remonter par le commencement. On dit qu'à l'intérieur se trouve la maison où vivait la Vierge. Et c'est là qu'elle a reçu l'ange de Dieu, lui a annoncé qu'elle sera la mère de Dieu. Avec incompréhension au commencement, petite hésitation, mais finalement, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors c'est dit, la maison de la Vierge, qu'on va voir à l'intérieur de l'église, de la crypte, bien sûr restaurée. Cette maison était vénérée par cette communauté qu'on appelle la communauté judéo-chrétienne. Et si vous vous rappelez, quand on était à Avdat, le Père nous a parlé des églises, mais avant les églises, on nous a parlé de la culte dans la maison. Et oui, la maison de la Vierge était une de ces maisons autour desquelles les chrétiens rendent culte à Dieu. Et se trouvait rassemblée parce qu'elle était persécutée par les Juifs et par les Romains dans des maisons privées. Et c'est là qu'ils passaient le jour dans la prière. Et pour la nuit, les habitants de la maison passaient la nuit dormir. Et le lendemain, la communauté revenait pour d'autres prières et à la suite. Et j'insiste à dire la communauté judéo-chrétienne. Pourquoi? Parce que cette première communauté chrétienne était tout d'abord d'origine juive. Les premiers apôtres étaient des juifs. Jésus lui-même était juif. Alors oui, et nous avons la racine de notre foi chrétienne dans le judaïsme. Alors la première communauté qui s'est développée s'appelait la communauté judéo-chrétienne. Alors vénéré à la maison de la Vierge, ils l'ont transformée dans ce qu'on appelle le Domus Ecclesia, maison-église, comme on a déjà vu. Et au 4e siècle, 350, quand on a repris la liberté, et quand la religion chrétienne était acceptée et devenue la religion officielle de l'Empire romain, on a construit une première chapelle par un diacre qui s'appelait Conan, juste devant la maison de la Vierge, où nous avons encore les traces de cette chapelle. Et cette chapelle sera détruite par la conquête, quelle année?
613.
Vous, je vois, vous êtes très juif, cher diacre. 613. Les 613 sont le commandement dans la religion juive.
600 et quelques.
Non, j'accepte pas les quelques. Moi, j'accepte 614. Parce qu'à la fin, vous allez rentrer chez vous dire Père 614, Antonio Barluzzi. Antoine Ballot, c'est celui que j'ai mentionné au Mont-Tabor, ça va revenir. Alors, 614, cher diacre. Quand même, là, la bonne mémoire. Ok. Les croisés ont construit une deuxième église, mais il paraît que c'était encore plus grande que la première, qui est la chapelle, et plus grande que celle de maintenant. Vous avez encore quelques fondations devant et quelques colonnes. Mais vous savez quoi? L'église des croisés n'était pas achevée à 100%. Elle était détruite et c'était un peu bizarre, ou bien c'était vraiment mystérieux que l'église de l'Annonciation à Nazareth était détruite par les musulmans. Surtout que les musulmans vénéraient toujours la Vierge Marie et toutes les églises dédiées à la Vierge n'ont pas touché. Ici, c'est vraiment un mystère, on ne sait pas pourquoi. Quand même, c'était détruit et c'est tombé dans l'abandon, bien on ne pouvait pas construire au commencement. Il fallait attendre jusqu'à l'arrivée de ce gouverneur Druze. Celui qui a donné le Mont Tabor aux franciscains, il a autorisé les franciscains de construire une église ici qui était très belle. Mais en 1960, il y avait le besoin d'agrandir l'église. Pour cela, on l'a démolie et malheureusement, on n'a rien conservé de cette église. Par contre, on a conservé l'église, la chapelle byzantine et la maison de la Vierge et le mur de l'église de croisée à l'intérieur. Et à la tête de l'équipe de fouilles se trouvait le père Bagatti, qui était un père franciscain et archéologue. Et pendant qu'il fouillait ici, il est tombé sur une pierre sur laquelle il a trouvé sculpté en grec « Kyrie Maria »« Réjouis-toi, Marie ». J'aime bien comparer avec la parole de l'ange. L'ange a dit « Réjouis-toi, plein de grâce ». Mais qui est-ce qui a pu sculpter cette parole? C'était plutôt la communauté judéo-chrétienne qui a vénéré la maison « Réjouis-toi, Marie ». Et oui, moi, je n'ai pas connu le père Bagatti, mais le père Bagatti était le professeur de mon professeur à l'école des guides et au séminaire. Et mon professeur me disait que son professeur Bagatti, après avoir trouvé cette pierre, il a passé toute la nuit devant le Saint-Sacrement à genoux dans la prière pour remercier Dieu à cette importante découverte. C'était vraiment la grande preuve que c'était la maison de la Sainte Vierge. Et le père Bagatti a aménagé le fouille et plus tard on a construit l'église, la crypte tout d'abord, à laquelle vous allez trouver la maison de la Vierge, la chapelle byzantine visible et les murs de l'église de croisée. Et à savoir, une fois qu'on est rentré, on peut passer au fond. On va rentrer par la porte côté droite. On avance jusqu'au fond de l'église. On va dépasser la chapelle byzantine. On tourne, on descend l'escalier, ça nous ramène devant la maison de la Vierge. On peut dire une prière un peu vite, d'accord, parce qu'il y aura du monde. S'il n'y a pas de monde, tant mieux pour vous. Et on peut faire la belle photo et plus tard, on peut remonter par l'autre escalier. Et par l'autre escalier, côté gauche, on peut remonter à l'église supérieure. À l'église supérieure, vous allez trouver un tableau magnifique derrière l'autel. Pourquoi je dis magnifique? Vous allez le savoir maintenant. Ça nous montre Dieu le Père représenté par un œil. Ça nous montre Dieu le Saint-Esprit représenté par une colombe blanche. Et ça nous montre Dieu le Fils, représenté par les personnages de Jésus, sur un roche, au plein milieu d'une rivière Jourdain, face à Saint-Pierre, baptême, église, Jourdain. Et la Sainte Vierge, la Reine, se trouve derrière. Et tout autour, on a un défilé des hommes infinis. On a toutes sortes d'hommes et femmes, des laïcs et des clergés, des civils et des militaires. Et si vous cherchez bien, vous allez peut-être trouver votre place dans le défilé. Pour cela, je l'aime bien, ces tableaux. Sera l'église supérieure. Et à l'église supérieure, vous allez trouver la continuation de ces tableaux offerts par plusieurs pays, y compris la France, pour vous soulager un peu, y compris la France, à l'état supérieur. Vous allez trouver d'autres tableaux. Et ces tableaux sont offerts par différents pays. Et remarquez bien, par exemple, la figure de la Vierge chinoise. Elle est chinoise. Comment était la Vierge?
Elle était juive.
Hein? Elle était jaune.
Jaune?
Elle était juive.
Elle était juive. Et comment était la juive?
Jolie.
Moche?
Non, jolie. Non, elle était très belle. Elle était très belle, de toute façon. Non, mais la Vierge, elle était très belle.
Comment vous le savez?
Parce que je l'imagine comme ça.
Ah, parce que je l'imagine comme ça. J'ai bien aimé la réponse.